Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Voilà contre-histoire, avec un peu de chroniqueur.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Canal Sud 92.2. Contre-histoire chroniqueur aujourd'hui, pour le début de semaine. On a quand même deux aujourd'hui, Sébastien. On va être aujourd'hui sur la Pacifique italienne. Une journée aujourd'hui consacrée au reggae et au mouvement rasta. Et le premier morceau qu'on écoute s'appelle Santa Rosa Cala, beaucoup d'amis.
Oui.
C'est vos CD.
Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Hein.
Canal Sud 92.2, bonjour. Donc, nous reprenons, comme vous a dit Baptiste, nous reprenons à la fois à nouveau un contre-histoire mixé de chroniqueurs. On vous avait annoncé du reggae, voilà du reggae, vous avez entendu. On va vous envelopper, vous rythmer, vous illustrer l'histoire en faisant aussi pas mal de géographie. Puisque on va commencer par les États-Unis, les Caraïbes et bien sûr le périple africain de l'Éthiopie comme terre promise. Nous allons donc vous raconter l'histoire du mouvement Rasta. Alors aux USA, entre les deux guerres mondiales, malgré l'abolition de l'esclavage au siècle précédent, le racisme est prospère. Mais la conscription des soldats noirs dans la Première Guerre mondiale a ouvert une brèche dans la ségrégation par la proximité créée par la force des choses, par le port de l'uniforme américain et par les souffrances communes. Alors là, vont s'amplifier des courants émancipateurs, lesquels n'avaient d'ailleurs jamais cessé. Et il y a de fortes personnalités qui apparaissent. De fortes personnalités. Vous avez sûrement entendu parler de Marcus Garvey et peut-être de Leonard Percival. Oh ouais. Voilà Sébastien.
Bonjour.
Ah. Tu es venu nous parler précisément de Leonard Percival Noël, c'est ça?
Voilà, entre autres, et puis de l'histoire un petit peu de l'émergence du mouvement Rasta, principalement en Jamaïque.
Okay. Merci d'être là, en tout cas, ça nous fait bien.
Ben, plaisir, merci à vous.
Merci.
Donc voilà, ben, l'histoire des Rasta commence dans les années 20 par la rencontre de deux hommes d'origine jamaïcaine, Marcus Garvey et Leonard Percival Noël. Marcus Garvey, né en 1888 en Jamaïque, fait ses débuts dans l'imprimerie de son parrain et quitte en 1910 la Jamaïque pour travailler comme journaliste pour différents journaux. En 1914, il revient sur son île natale pour fonder l'UNIA, l'Universal Negro Improvement Association, le mouvement noir le plus populaire de tous les temps. Il ouvre la voie au Black Power et aux indépendances africaines. Dans les années 20 à Harlem, il prédit qu'un leader charismatique sera proclamé roi d'une grande puissance africaine et deviendra l'incarnation d'un dieu africain.
Cette personne qui dit ça, ce n'est pas Léonard Percival Wells, c'est Marcus Garvey.
Là, c'est Marcus Garvey, voilà, qui est d'un petit peu, disons, plus sur la politique et sur la défense des Noirs à travers le monde, et principalement, mais là, ça se passe à Harlem, voilà. À l'Université de New York.
Et je crois d'ailleurs que pendant cette période-là, les années 20, on parlait de Harlem Renaissance. Où justement, il y avait, tu sais, toute une valorisation de la négritude, un peu. Ça a un peu précédé les années 70 et 80 aux États-Unis, où là, justement, il y avait la danse, les chants, même des pièces de théâtre. Enfin, c'était là, on appelait ça Harlem Renaissance. Et Marcus Garvey était un des leaders de ce mouvement-là, en fait.
Oui, c'est bien possible.
C'était un peu Black Power, Black is Beautiful, un peu avant l'heure.
Oui, bien sûr, oui.
C'est un peu ça.
Et c'est sur ces idées-là, d'ailleurs, oui, que se fonde la...
Oui. Ouais. Que se fonde le Rastafarisme.
Oui, voilà, et la philosophie de Leonard Rowell, après, qui sera fortement inspirée, d'ailleurs, de la pensée de Marcus Garvey. Ouais. Donc, en fait, voilà, c'est là que la rencontre se fait, donc, dans le Harlem des années 20. Et où Percival Lowell, qui lui-même est né en Jamaïque, qui séjourne à New York pour faire des études de médecine. Et Lowell se trouve captivé par les idées de Garvey et va par la suite d'ailleurs s'en inspirer fortement. Voilà, une dizaine d'années plus tard, donc en 1930 exactement, Teferi Mekonnen, le Rastafari, donc Haïlé Sélassié, est couronné roi d'Éthiopie. Donc son titre exact est Haïlé Sélassié Ier, le pouvoir de la Sainte Trinité, 225e empereur de la dynastie de Salomon, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda. De par le monde, beaucoup de Noirs, surtout, enfin beaucoup en Jamaïque aussi, disons,
oui.
Voient en ce couronnement l'accomplissement de la prophétie de Marcus Garvey.
Oui. Mais ce que je trouve intéressant, on le disait tout à l'heure avant l'émission, c'est que tu viens de dire qu'en gros, Haïlé Sélassié, donc Tafari Mekonnen de son vrai nom est désigné comme le 225e successeur de David, donc de la descendance du roi Salomon. Et en fait, c'est le roi David et le roi Salomon, je pense qu'on le sait tous, étaient des rois juifs. Okay. Donc on voit déjà à partir de ce moment-là à quel point Léonard Percival Lowell, pour fonder le mouvement Rasta, a pioché dans différentes mystiques, alors que ce soit la mystique, ou en tout cas la religion juive. On le verra après, il y a aussi un peu de gandhisme, du communisme. Je voulais juste préciser ça pour montrer à quel point le rastafarisme est une synthèse un peu de tout un tas de mouvements qui existaient déjà. Et donc, c'est pour ça qu'on voit, Juda, on voit donc le lion de Juda, on voit l'étoile de David sur certaines représentations, des fois Rasta. Donc, il n'y a pas d'erreur, vous avez bien vu des signes juifs, des signes hindous, enfin, il y a plein de choses. C'est pour ça aussi que c'est une belle histoire. Pour ça que je voulais t'interrompre encore,
oui,
désolé.
Tout à fait.
C'est pour ça que quand on parle de Juda, etc., c'est pas un hasard, ouais, ça a été emprunté aussi au judaïsme.
C'est très éclectique, ouais. Effectivement, ce mouvement-là, ouais. Est fondé sur beaucoup de bases existantes de l'Afrique aussi, de la, comment dire, le christianisme,
oui.
Colonialiste en Afrique,
ouais.
Etc.
Enfin, y a des premiers chrétiens, justement, en Éthiopie et tout ça, je crois aussi.
Oui, il y a tout ça, je pense aussi. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, ben, toutes les colonies qui ont apporté leur religion, qui a été,
oui.
Enrichi des cultures,
ouais.
Traditionnelles.
Bien sûr.
Du coup, c'est vrai que c'est une espèce de melting pot,
ouais.
Assez important.
Ouais, ouais.
Voilà, donc à partir de là, donc on en est à, voilà,
oui, au couronnement
d'Haïlé Sélassié. Léonard Rowell, pardon, va retourner en Jamaïque et commencer à prêcher aux alentours de Kingston et rapportant les prédications de Garvey, le couronnement d'Haïlé Sélassié, et proclamer haut et fort en fait que les Noirs de Jamaïque doivent désormais considérer comme leur roi non plus George V, mais bien Rastafari.
Eh oui, ça pose un problème, j'imagine.
Donc ça pose un problème, ouais. Effectivement. D'ailleurs, il se retrouve arrêté pour troubles d'ordre public et incitation à la rébellion.
Voilà, et ouais, il incite à l'insoumission, à la rébellion.
Voilà, l'esclavage étant aboli depuis un petit moment maintenant, les gens ont plus, enfin voilà, ils veulent se libérer un petit peu du joug
colonial. Britannique, ouais, colonial, etc., c'est vrai.
Et du coup, ben voilà, il se retrouve en prison donc pour inciter un petit peu trop fortement le peuple à reprendre
ses droits,
son identité.
Bien sûr. Et puis c'est là aussi qu'on voit que le rastafarisme et le reggae, avant d'être une lubie de fumeurs de joint et de porteurs de dreadlocks, avant tout, c'est aussi un mouvement de résistance et d'émancipation et d'insoumission. Quoi. C'est ça qui est important aussi. Je pense qu'il est important de comprendre et sur quoi il faut s'arrêter aussi.
Ben oui, tout à fait, c'est une histoire de dignité, d'identité.
Voilà, de revendication avant tout.
Et c'est pas effectivement, comme tu le dis, comme folklore.
Voilà, non.
Psychédélique.
Ouais, c'est ça. Non. C'est plus profond que ça.
C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu plus loin.
Ouais. Ouais.
C'est très important de définir le mouvement Rasta dans toute sa profondeur, ouais. Parce qu'il y a trop d'images d'Épinal et c'est injuste.
Oui, tu voulais peut-être continuer.
Ben, disons qu'à ce moment-là, oui, voilà, je peux enchaîner avec son emprisonnement, on va dire.
Oui.
Où il se, en fait, on trouve des tracts qui ont été imprimés du gang des Rastafari, donc
oui.
C'est vraiment les prémices du mouvement. Donc voilà, les points clés sont inspirés fortement des discours de Marcus Garvey, quoi. Donc il y a deux points forts, je ne vais pas détailler trop parce que
ouais.
c'est trop compliqué. Disons qu'il y a un point qui dit « Honte à la race qui abandonne sa doctrine pour celle d'une autre, elle deviendra l'esclave de cette autre race.
Mm-hmm. »
Et il y a un autre point qui dit « Honte à la race qui ne cherche pas ses propres fondations.
Mm-hmm. »
On notera d'ailleurs ici une ressemblance assez frappante avec le discours de Marcus Garvey qui dit qu'un peuple sans la connaissance de son passé est comme un arbre sans racines. En fait.
Oui, d'accord.
Donc ça, c'est directement, voilà, c'est quasiment sorti de la bouche de Marcus Garvey et
d'accord.
traduit par Leonard Howell pour le peuple jamaïcain.
Ok, d'accord.
Voilà, donc au niveau, après, par rapport à son procès, il va lui-même assurer sa défense.
Oui.
Alors, en forme de serment, son discours sera un petit peu l'acte de naissance de la doctrine Rasta, quoi. C'est
d'accord.
un véritable programme politique sous des airs de charabia prophétique.
Ok.
Il va mélanger un petit peu le Rastafari, le Messie noir revenu sur Terre pour défendre la cause du peuple noir,
ouais.
la Terre promise en Abyssinie, le Mont Zion, Babylone, le monde corrompu, tout ça. Ce qui ne plaît pas beaucoup, il faut le
au
dire,
pouvoir.
Au pouvoir en place,
ouais.
qui est plutôt un peu anglais.
Bien sûr.
Donc, il écope encore à nouveau de 2 ans de prison.
D'accord. Et je me disais aussi, tu sais que le bon, je pense qu'on l'a compris, mais je voulais insister là-dessus, le couronnement de Haïlé Selassie, comme tu disais, Percy, comme l'appelle ses copains, Léonard Percy Malouet,
ouais.
eh bien il s'en empare en fait directement, il s'empare de cette prophétie qu'avait annoncé Marcus Garvey, il s'empare de ce couronnement et il désigne Haïlé Selassie comme le Black Jesus, le Jésus noir. Comme le Messie noir, comme tu l'as dit, il dit que c'est vraiment le moment d'en profiter, entre guillemets, pour essayer d'éveiller les consciences à la négritude, au fait que les noirs peuvent être libres, qu'ils peuvent être aussi, voilà, c'est pas dans leur gène que d'être soumis ou d'être colonisés. Je pense que c'est vraiment ça qui est très intéressant aussi, le couronnement de Haïlé Selassie, Léonard Percival Well le récupère vraiment. Pour le mettre
ouais,
comme figure
fait
messianique.
Sa pierre fondatrice,
voilà.
toute la suite après de
ouais.
son aventure.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et, qui plus est, en plus, c'est un empereur. Donc en plus, il est chef militaire. Donc il y a toute cette notion-là aussi qui est importante, dans le sens où c'est pas, je veux dire, quelqu'un comme Gandhi, ou c'est quelqu'un qui a les armes, entre guillemets, pour défendre une idéologie, et en tout cas l'idéologie qui est celle de Howell.
Il est installé officiellement sur le trône de l'Afrique,
ouais.
de l'Éthiopie.
Et puis c'est aussi du coup la première nation noire souveraine aussi qui est présente à la Société des Nations, aux côtés de tous les autres pays, de toutes les autres nations qui sont en général blanches. Et donc là, il y a aussi quelque part quelque chose de très nouveau. Quoi.
L'égalité
voilà.
qui apparaît, qui n'était pas très courante
voilà. à cette époque-là.
D'accord. Ouais. Donc effectivement, oui, c'est un point assez fort de la suite de l'histoire. Ouais.
Ouais.
Et du coup, ben, c'est là que une fois incarcéré, il apprend, Leonard Rouel, donc, apprend en prison, en décembre 34, une fort mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que Mussolini est en train d'envahir la Bissigny.
Ah oui, et on est en 1935 à ce moment-là, non?
Voilà, c'est ça,
oui. Ah oui, eh oui. Parce que donc, effectivement, de l'autre côté de l'Atlantique, à ce moment-là, Mussolini se réveille roi du monde. Et il voulait dévorer tout ce qui était à sa portée. Les colonies italiennes de Somalie et de l'Érythrée étaient frontalières avec l'Éthiopie. Alors Mussolini, il a sauté dessus, malgré le traité d'amitié qu'il avait signé avec Haïlé Selassie en 1928, et malgré la condamnation tout à fait formaliste de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, qui siégeait à Genève. L'agression était caractérisée depuis des mois, hein, donc depuis le début de 1935, et l'annexion était même annoncée. Alors qu'a fait l'Europe? Ben, la France et l'Angleterre, elles ont protesté mollement, hein, très mollement, parce qu'elles avaient peur que, en condamnant Mussolini, Mussolini aille s'allier avec Hitler. Ils ont laissé faire Mussolini, comme ils ont laissé faire Hitler, 3 ans plus tard, avec la Tchécoslovaquie.
D'accord, donc c'est en ce moment-là que les Noirs du Honduras, de Jamaïque et des îles de la Caraïbe veulent rejoindre les troupes éthiopiennes afin de défendre la mère patrie. C'est alors qu'un article sur les Naya Binki paru en décembre dans le Jamaica Times va mettre le feu aux poudres. C'est en fait un article de propagande anti-éthiopienne écrit en 1934 pour un journal de Vienne par un journaliste italien, Federico Filos. Il prétend qu'une société secrète noire, les Naya Binki, aurait rassemblé une armée de 20 millions d'hommes sous le commandement d'Haïlé Selassie pour détruire les Blancs. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, les Naya Binki sont une société secrète féminine basée au Rwanda-Urundi, qui est aujourd'hui l'Ouganda et le nord du Rwanda, qui était en fait un mouvement de rébellion contre le colonialisme. Donc, ces femmes-là étaient assez violentes et exerçaient la terreur envers les colons. Elle a été rapidement interdite, cette société-là, en 1928, et elle ne ressurgira donc qu'au moment de l'invasion de l'Éthiopie. Donc, moins de 2 ans après l'émergence des premiers Rastas, disons, se forme sa première branche dissidente, les Naya Binki. Mais le texte, entre guillemets, fondateur de cette branche du mouvement est un texte de propagande raciste, écrit par un blanc et conçu pour exacerber la paranoïa des blancs. Donc c'est un point assez étonnant de l'histoire qui existe encore d'ailleurs. Hein. Les Naya Binki sont devenus un mouvement rasta assez extrémiste,
okay,
très engagé contre le colonialisme et les blancs en général. Et ça vient de vraiment tout à fait ailleurs. Enfin, ça a été
récupéré,
propagande, et ouais, c'est assez étonnant. Quoi.
Ouais, ouais. Il fallait bien discréditer l'ennemi, quoi.
Enfin, voilà, c'est ça, oui. Puis le fait que l'Éthiopie soit à ce moment-là, fasse partie de la Société des Nations, enfin, c'était aussi une façon de ne pas aller lutter contre l'Italie, qui oui, était peut-être plus en place. Hein.
Ouais.
Voilà, donc ça a été une espèce de gros mensonge historique.
Quoi. Naya Binki, tu dis.
Naya Binki,
oui. À retenir, hein.
Ouais.
À retenir.
Oui, c'est assez étonnant, cette histoire-là. Ouais.
On va travailler là-dessus, on va faire une émission spéciale. Absolument.
Naya Binki, oui.
Extraordinaire.
J'ai un petit passage sur ça que j'avais laissé de côté, mais en gros, en réhabilitant l'image noire, Marcus Garvey n'avait fait que rendre à des hommes la fierté de leur identité.
Ouais.
Les propos de Filos sont tout autres, en fait. Lui, pour que l'Europe accepte de laisser l'Italie annexer l'Éthiopie, il invente un complot mondial de toutes les races de couleurs et leur prête des sentiments de haine qui n'ont jamais été ceux d'Haïlé Selassie. Donc là où Garvey et Howell parlaient d'amour, ils parlent de haine. Là où ils parlaient de renaître, les Naya Binki, selon Filos, parlent de tuer.
Ouais, d'accord.
Et cette haine des Blancs propre aux Naya Binki est elle-même le produit de l'imaginaire blanc. N'est-il pas normal que les Noirs nous haïssent, compte tenu de ce qu'ils ont subi des mains de notre race?
Ouais,
en gros, le message est celui-ci, quoi.
D'accord. Ouais, c'est intéressant, donc, parce que c'est vrai, quand même, moi je me dirais comme ça un peu spontanément, j'ai déjà souvent entendu dire qu'en Jamaïque, les gens étaient racistes contre les Blancs, enfin tu vois, parce que passaient d'esclaves, etc. Alors que c'est pas... C'est vrai que dit comme ça peut paraître
une conséquence logique. Bon, ben, on a souffert, donc on en veut à ceux qui nous ont fait souffrir, mais c'est pas le cas, évidemment, de tous les Jamaïcains. C'est pas le cas de tous les gens qui ont été esclaves, qui ont subi l'esclavage. Tout le monde n'a pas un désir de vengeance.
Oh non, c'est même vraiment une petite minorité.
Ah oui, j'imagine bien, bien sûr.
Bon, et du coup, alors pour enchaîner avec la vie de Leonard Howell, une fois sorti de prison, il va se rapprocher en 1936, donc il va se rapprocher des communautés indiennes qui sont présentes sur l'île depuis 1845. Il prendra le pseudonyme de Gangun Guru Maharaj et sera connu sous le pseudonyme diminutif de Gong jusque dans les années 60.
Et là, excuse-moi, j'interviens.
Oui, non, il n'y a pas de problème.
Mais je suis là pour ça. Mais c'est vrai que Gangun Guru Maharaj, moi je me suis rendu compte que, bon, ça a une consonance indienne, hein, c'est sûr.
Ah oui.
Et justement, moi ce dont je me suis rendu compte, la première fois que j'ai vu le film, là, le premier Rasta, toi tu as lu le livre, hein, de
Hélène. Oui, c'est ça, moi j'ai
connu d'ailleurs. Grâce à ce bouquin-là que tu
as lu. Fortement inspiré.
Que tu t'es inspiré. Et moi j'ai vu le documentaire, si vous pouvez le voir, alors sur internet il est disponible, mais pas forcément sur YouTube ou sur d'autres sites, mais si vous cherchez bien vous pouvez le trouver, donc le premier Rasta. Dans ce documentaire on se rend compte en fait que. Donc Leonard Percival Well a été influencé dans la conceptualisation du rastafarisme par la mystique juive, par le gandhisme, par le communisme et d'autres choses, mais aussi par l'hindouisme, parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que, bon, Gangun Guru Maharaj, ça veut dire seigneur de l'univers, d'abord, et en fait, par exemple, les dreadlocks, en fait, il paraît que finalement c'est une représentation de Shiva, en méditation, en fait. Shiva, quand elle médite, apparemment, elle aurait les cheveux qui poussent. Et c'est pour ça, en fait, que les dreadlocks, c'est vraiment la représentation de Shiva. Parce que quand elle est en état de transe, en méditation, elle a les dreads qui poussent. Donc, il y a ça. Et il y a aussi la marijuana. Alors, moi, je me suis rendu compte de ça. J'ai été complètement interpellé, parce que moi, je me suis toujours dit, la marijuana, ça vient de Jamaïque. En fait, ça vient d'Inde.
Oui, j'aurais pensé ça aussi, mais
je ne le savais pas.
Les Rastas qui l'ont piqué aux Hindous, finalement, voilà. Que l'inverse.
Et pourquoi ? Parce que les Indiens, eux aussi, ont été colonisés par les Britanniques. Et donc, une fois, à un moment donné, il y a eu toute une migration, en fait, des Indiens en Jamaïque,
c'est ça, oui,
pour avoir des terres, etc. Ouais. Voilà. Et donc, ils ont ramené leur culture et ils ont aussi amené la marijuana. Et oui, donc, c'est pour ça, depuis qu'en Jamaïque, on fume de la marijuana, c'est par influence indienne. En fait.
Oui, c'est ça, exactement. Moi, c'est vrai que ça, c'est aussi un point. Qu'on a tendance à pas
oublier,
à négliger, mais ouais, ça va connaître trop. Ouais.
Il y en a des choses à dire.
oui, c'est vrai.
Excuse-moi. Vas-y.
Mais du coup, non, mais ça rejoint tout à fait mon propos, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc Leonard Howell rejoint un petit peu les communautés indiennes présentes de l'île, sur l'île. Il est fasciné par la sagesse hindoue qui va lui permettre de structurer toute la vision rasta. En fait, c'est un système philosophique qui résout le dualisme occidental. Dieu, diable, bien, mal, noir, blanc, corps, esprit. Du coup, la culture rasta sera fortement empreinte d'influence indienne et effectivement, les dreadlocks et l'usage de l'herbe sacrée découleront un petit peu de ça. Il faut savoir aussi que les sadhus,
ouais,
qui sont, je crois, les plus importants des moines hindous, portent même les dreadlocks.
Et, c'est vrai, tu as raison. Les sadhus, c'est des gens qui sont, je crois, la plupart du temps en tailleur, assis,
oui,
et qui mendient et qui méditent la plupart du temps et qui ne vivent que de ce que leur donnent les passants, en fait.
C'est ça, exactement. C'est ça. Oui. Et c'est il y a de fortes chances que les dreadlocks,
ouais,
qu'on connaît bien des rastas, des jamaïcains, viennent aussi de là. Voilà, donc à cette période, Leonard Howell acquiert une propriété de 150 hectares sur les collines qui surplombent Kingston, le pinacle. Et c'est là qu'il va inviter un petit peu tous les démunis, les oubliés du système à les rejoindre et fonder aussi, alors, d'une part, la plus grande communauté rasta de l'île et d'autre part, la plus grande plantation de marijuana aussi.
Ah oui. J'avais une question. Il est bientôt, on arrive bientôt à mi-émission. Est-ce qu'on pourrait mettre peut-être une autre musique ?
Oui, et puis après, je vous raconterai le premier discours d'Haïlé Sélassié à Genève, à la tribune de la SDN.
Qu'est-ce qu'on met alors ?
Alors, on va mettre War.
War, ben super, ça tombe bien, de Bob Marley.
War de Bob Marley, donc, les anglicistes perfectionnistes pourront retrouver le texte en français quand je vais vous le lire dans le discours d'Haïlé Sélassié.
Parce que War contient justement un extrait du discours de
voilà, Haïlé Sélassié. Voilà, absolument.
On se retrouve juste après.
The philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, it's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. It's a war. War in the east. War in the west. War up north. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil.
Donc on était avec Bob Marley juste à l'instant.
Ouais. Enchaînons, oui, avec Leonard Rowell.
Oui.
Donc on en était à
le pinacle, je
le
crois.
Pinacle, ouais, voilà, c'est ça. La première communauté un petit peu rasta installée, ouais, sur les hauteurs de Kingston.
Ouais.
Donc jusque dans les années 50, il se retrouve là avec quelques milliers de personnes qui affluent en fait de plus en plus, tous les déshérités finalement qui cherchent aussi un prophète ou quelqu'un.
Ouais.
Donc lui va les prendre un petit peu sous son aile. Et puis à grand renfort de marijuana et d'idées un petit peu rasta, enfin, ouais, commence à devenir un peu paradisiaque. Ils vont se retrouver un petit peu coupés de la réalité, en fait. Il va y avoir d'une part le pinacle et de l'autre le monde extérieur, comme un petit peu Zion et Babylone.
Ouais. Babylone, pareil, c'est ce qu'on disait avant l'émission, c'est la référence directe justement au judaïsme, puisque Babylone, on se rappelle que c'est Nabucodonosor, qui a au 6e siècle fait exiler, c'est le premier exil en fait des Juifs qui s'en vont de Jérusalem parce que Jérusalem et le temple ont été détruits par Nabucodonosor qui était le roi de Babylone, et du coup Babylone reste dans l'imaginaire juif et donc reste ensuite eh bien la figure du mal entre guillemets de ce qui est démon un peu de
là. Ils font la distinction entre le Zion qui est un petit peu le paradis terrestre, voilà, et Babylone qui est le monde corrompu un peu capitaliste,
voilà. Le système voilà, actuel qui ne leur va pas.
Voilà, c'est ça qui ne convient pas trop non, ouais.
Excuse-moi.
Voilà, donc non, mais il n'y a pas de problème, tout ceci est fort intéressant. Et alors, donc voilà, jusqu'en 54, en fait, tout se passe comme ça, un petit peu sur un nuage, disons, ouais. Dans ce pinacle, la philosophie Rasta devient de plus en plus concrète. Jusqu'à ce qu'un raid des autorités jamaïcaines en fait renvoie Howell en prison pour pratique illégale de la médecine. En effet, il a accueilli un grand nombre de personnes défavorisées, souffrant de maux divers. Le plus grand nombre est quand même touché par la malnutrition. Donc c'est aussi, le pinacle est un endroit où on cultive pas que de la marijuana, mais aussi de quoi se nourrir et vivre ensemble de façon assez simple, quoi.
La marijuana, c'est pour nourrir l'esprit, et puis le reste, voilà, c'est pour nourrir. Voilà.
Oui, mais il était herboriste aussi.
Il était, oui, il a suivi des études de médecine qu'il n'a pas abouti.
Il n'a pas abouti.
Mais il avait une formation, voilà, il ne connaissait pas.
Oui, il était très spécialisé dans les médecines naturelles.
Ouais.
Et
oui, effectivement, oui. Donc là, on va l'accuser de ça. Il faut bien trouver un prétexte pour mettre ce trouble fait, encore une fois, en prison. Donc là, le prétexte, c'est pratique illégale de la médecine.
Ouais.
Cette fois-ci. Et donc, on saisit 8 tonnes de ganja, 9000 plants sont brûlés, la police met la main sur des milliers de livres sterling et quelques tonnes de nourriture qui sont pour la plupart produites sur place.
Ouais.
Donc, si ce n'est la marijuana qui est en train de devenir illégale, qui n'était pas jusqu'alors. Mmh. Et on peut pas, disons qu'il n'y a pas grand crime en fait,
ouais,
y a pas ce pinacle, c'est juste que ça effraie un petit peu les autorités en place, quoi.
Et puis en plus, c'est comme on le voit dans le premier Rasta, le documentaire que j'ai vu, ce qui posait problème aussi, c'est que c'était quelque part un village indépendant en Jamaïque, alors que la Jamaïque est un état qui n'est pas indépendant, puisqu'il était dépendant de la couronne britannique. Donc ça agaçait fortement la couronne de voir que dans une colonie, eh bien, il y avait un village qui était indépendant.
Il y avait un État dans l'État.
Un État dans l'État. Voilà, c'était
exactement ça. Oui, puis qui se développait fortement. En
voilà.
Plus,
quoi, parce que... où il y avait de plus en plus d'adeptes et qui marchait très bien. Donc,
ouais, c'est ça. Oui, du coup, oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu plusieurs raids d'ailleurs qui ont,
ouais,
jusqu'à ce que ça soit complètement rasé,
détruit,
par les autorités, parce que ça. C'était difficile à accepter,
voilà,
pour la couronne britannique. La couronne,
police, c'est ça, oui.
Ouais. C'est en quelle année? En 1954, hein, le raid, c'est ça?
Alors là, je crois qu'il me semble qu'il y en avait un avant que je n'ai pas mentionné. Il y a le raid de 54, et après, il va y avoir la fin du pinacle en 58.
D'accord, ouais.
Qui, d'ailleurs, voilà, mais on va y passer peut-être. Le pinacle est mis à sac par les autorités. À cette époque-là, les Rastas se retrouvent du coup en communauté dans les ghettos proches de Kingston. Alors ça commence à l'ouest de Kingston, puis ça va se développer tout autour de Kingston. Et à Back Wall, notamment, qui veut dire contre le mur, en fait, au pied du mur.
Oui, d'accord.
Qui est un des gros ghettos, qui est un ancien village indien, un bidonville indien,
oui,
où subsiste une forte influence indienne. Où d'ailleurs les Rastas se retrouvent autour du chalice, la pipe rituelle d'herbes sacrées.
Mmh.
On se retrouve pour parler d'amour, d'entraide, d'autosuffisance, de non-violence et de dignité, quoi, malgré qu'on habite dans des cabanes en carton, en bois, en tôle, on essaie de garder une petite fierté de son identité, quoi.
Il y avait quelque chose avec le pinacle aussi, c'est que je me rappelle dans le documentaire, encore une fois, le premier Rasta, si vous pouvez le voir, allez le voir, que le pinacle, cette colline, c'était autrefois un lieu de refuge pour les marrons. Tu sais, les esclaves en fuite. Et donc symboliquement, c'est quelque chose aussi de très fort, parce que avant qu'il y ait donc ce mouvement-là de Rasta et donc du pinacle, il y avait une tradition déjà de refuge, c'est un lieu
liberté.
Symboliquement de liberté,
oui.
de refuge.
C'est vrai que j'ai pas abordé ça,
je crois,
mais oui, ça me parle effectivement. Ouais, Alors du coup voilà, bon, ils se retrouvent, alors tous ces rastas se retrouvent un petit peu entassés dans les ghettos, et assez rapidement ils se disent que ça ressemble bien plus à l'enfer que l'illusion de paradis créée par Roel au Pinacle, quoi.
Ouais.
Donc la chute de ce dernier donne raison à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de solution sur place, quoi. Donc là commence à germer, enfin, une idée qui existe depuis déjà longtemps, c'est le retour en Afrique, quoi, là.
Ouais.
Repatriation, comme ils disent à l'époque, et ce qu'on entend dans tous les textes de reggae, ouais, et de rasta, où ils se disent voilà, maintenant que l'esclavage est terminé, ils se retrouvent dans un système qui leur correspond pas trop, ouais, et peut-être que la seule solution finalement c'est de revenir sur la terre,
ouais, des origines.
La terre des origines, voilà.
Ouais.
Du coup, voilà, alors entre temps. Enfin voilà, plutôt à la fin du Pinacle, donc le règne de Howell est en déclin, enfin il se termine quasiment, il est un peu même écarté du mouvement. Et on lui reproche, ça c'est aussi une petite anecdote rigolote, on lui reproche de s'être pris pour Dieu. Peut-être comme Alpha Blondy plus tard, a-t-il vu que le fauteuil de Dieu était vide et il s'est simplement assis dedans.
Eh oui, bon.
Du coup, voilà, il voulait, lui, une vie socialiste et ses fidèles cherchaient un messie. Il a transformé la vie des gens comme seul Dieu pouvait le faire, finalement. Il est venu en aide aux femmes abandonnées, aux ouvriers sans travail, aux paysans sans terre. Et pendant 18 ans, il a garanti leur dignité. 18 ans, c'est assez long pour élever une génération d'hommes libres. Et c'est cette génération qui va prendre la relève. C'est un petit peu la génération du reggae, quoi.
Ouais. Belle histoire, en tout cas, que celle de, ouais, cet homme-là.
Et crois, pendant ce temps-là...
Et les Selassiés,
voilà, pendant ce temps-là, Haïlé Selassié essayait de défendre son Éthiopie. Et il est donc allé, alors là c'était un peu plus tôt, il est donc allé en 36, le 30 juin 1936, il est allé à la tribune de la Société des Nations à Genève pour faire le point sur la situation de l'Éthiopie et rappeler aux nations, aux grandes nations qui s'étaient engagées avec la charte de la Société des Nations, ils s'étaient engagées à faire respecter la paix et à défendre les faibles. Et Haïlé Selassié leur a rappelé leur serment et leur a expliqué ce que leur passivité avait donné. Voici quelques extraits de cet appel. Moi, Haïlé Selassié, empereur d'Éthiopie, je réclame la justice qui est due à mon peuple et l'assistance promise il y a 8 mois lorsque toutes les nations affirmèrent qu'une agression avait été commise en violation des traités internationaux. Il n'y a jamais eu auparavant un exemple de gouvernement procédant à l'extermination systématique d'un peuple en violation des promesses faites au monde de ne point recourir à une guerre de conquête. Alors là, je vais mettre une petite parenthèse parce qu'en 1915, il y a eu une opération d'extermination d'un peuple, l'Arménie.
Ah oui,
ouais,
d'accord.
Ben oui, mais peut-être que le génocide de l'Arménie avait été tenu secret. On va faire une émission, hein, sur l'Arménie.
La Société des Nations n'était peut-être pas née en 1915 aussi. Ce qui du coup change, enfin, expliquerait le pourquoi du comment. C'est 1920.
Le génocide arménien, c'est 1915.
Mais je veux dire la création de la Société des Nations qui était censée justement empêcher ce genre de...
Ah oui, mais ça, là, c'est Haïlé Selassié qui parle. Lui, il était né en 1880 et des poussières, oui. 84 ou 86, oui, je crois.
C'est ça,
oui. Voilà. Bon, je referme la parenthèse,
cool,
et je redonne la parole à Haïlé Selassié. J'ai le devoir d'informer les gouvernements du danger mortel qui menace leur population en décrivant le sort subi par l'Éthiopie. Le gouvernement italien n'a pas limité ses offensives au champ de bataille. Il s'est surtout attaqué aux populations éloignées des hostilités pour les terroriser et les exterminer. L'aviation a recours à l'hypérite. Des pulvérisateurs ont été installés sur les avions qui, en groupe de 9, 15 ou 18, vaporisent une pluie fine, fatale, en nappe continue. Dès fin janvier 36, soldats, femmes et enfants, bétail, rivières, lacs et pâturages furent continuellement arrosés de cette pluie mortelle, entraînant dévastation et terreur dans les endroits les plus peuplés. Tous ceux qui burent l'eau contaminée ou mangèrent de la nourriture infectée moururent dans d'atroces souffrances par dizaines de milliers. J'ai décidé de porter moi-même témoignage de ces crimes et de donner à l'Europe un avertissement du sort qui lui est réservé si elle devait s'incliner devant le fait accompli. Je répète, j'ai décidé de porter moi-même témoignage de ces crimes et de donner à l'Europe un avertissement du sort qui lui est réservé si elle devait s'incliner devant le fait accompli. Ben, c'est bien dommage que les Européens n'aient pas écouté ça, n'y aient pas prêté attention. En 1928, j'ai conclu un traité d'amitié avec l'Italie qui interdisait, sous quelque prétexte que ce soit, le recours aux armes plutôt que la conciliation et l'arbitrage. Je demande aux 52 nations de ne pas oublier aujourd'hui la politique sur laquelle se sont engagées il y a 8 mois et sur la foi de laquelle je dirigeais la résistance de mon peuple contre l'agresseur qu'ils avaient dénoncé au monde. Malgré l'infériorité de mes armes, l'absence complète d'avions, d'artillerie, de munitions, de services hospitaliers, ma confiance dans la SDN était absolue. Je pensais qu'il était impossible que 52 nations, y compris la plus puissante du monde, soient vaincues par un agresseur unique. J'ai essayé d'acquérir des armements. De nombreux gouvernements m'ont opposé un embargo, alors que l'Italie, par le canal de Suez, a eu toute facilité pour transporter sans interruption et sans protestation troupes, armes et munitions. Quelle aide réelle a été accordée à l'Éthiopie par les 52 gouvernements qui avaient déclaré Rome coupable d'agression et se sont engagés à empêcher le triomphe de l'agresseur? J'ai défendu la cause de tous les petits peuples menacés d'agression. À de nombreuses reprises, j'ai demandé une aide financière pour l'achat d'armes. Aide toujours refusée. Qu'est-ce donc en pratique que le sens du pacte de sécurité collective? En un mot, c'est la morale internationale qui est en jeu. Les signatures apposées sur un traité n'ont-elles de valeur que dans la mesure où les puissances signataires ont un intérêt personnel direct et immédiat en cause? Placés par l'agresseur face au fait accompli, les États sont-ils en train de mettre en place le précédent terrible de devoir s'incliner devant la force? Et aux grands États qui ont promis la sécurité aux petits, sur lesquels pèse la menace de subir un jour le sort de l'Éthiopie, je demande, quelles mesures comptez-vous prendre?
Quel beau discours.
Oui, le second est encore plus beau. Enfin, il est plus beau, il est surtout plus actuel. Oui, il est toujours actuel, le discours de New York.
Je me disais qu'on pourrait peut-être mettre le morceau War, mais en version française de Alpha Blondy.
Alors
Alpha... comme ça, on pourrait directement comprendre les textes. Qui sont inspirés du discours de Haïlé Selassie.
Voilà.
Donc c'est la version française, en tout cas Alpha Blondienne.
C'est une traduction mot pour mot.
Tout à fait, cette philosophie qui fait une race désespéré. qui est moyen de transformer en réalité. Et parce que c'est la guerre,
effectivement, Haïlé Sélassié s'est rendu aux Nations Unies. Si vous avez bien fait attention aux paroles traduites par Alpha Blondy, eh bien, on voit à quel point le discours d'Haïlé Sélassié en 63 était prémonitoire. Son discours à New York, donc, était antinucléaire. Il était antinucléaire sur le plan militaire. Il avait été un des premiers signataires du traité de non-prolifération et surtout de non-expérimentation des explosions nucléaires à l'air libre. Oui, je ne sais plus comment s'appelait le traité, mais il a été un des premiers signataires. Dans son discours de New York, donc, il a tiré la sonnette d'alarme et il a bien identifié, comme tout le monde d'ailleurs, que c'était le mal absolu, le danger suprême. Mais il ne pensait pas aux centrales nucléaires qui explosent. Et si on a, dans une certaine mesure, jugulé le problème, enfin, l'éventualité de l'usage de l'arme atomique, par contre, on a fait suffisamment de centrales nucléaires pour avoir répandu le danger sur la planète entière.
Dernière catastrophe en date, Fukushima.
Et voilà, en dehors de tout conflit, hein, on a trouvé le moyen de multiplier le danger nucléaire en dehors de tout conflit. Voilà, donc je crois que Haïlé Sélassié a préparé le terrain des écolos. Haïlé Sélassié avait vu que nous étions en train de condamner la planète. On peut revenir au mouvement Rasta.
Oh, oui, en Jamaïque, donc.
Voilà.
Très bien, en fait, oui, donc nous sommes au milieu des années 50. Donc la culture Rasta devient urbaine, un langage se met en place, alors je sais pas si... D'accord, donc on va laisser tomber l'argot Rasta pour aller un petit peu plus vite. Juste voilà, milieu des années 50, la culture s'urbanise et elle rassemble autour d'elle de plus en plus la jeunesse jamaïcaine et va tout à coup déborder les milieux Rasta avec l'arrivée du ska. Donc le ska et ensuite le reggae vont naître d'un mélange d'influences qui sont somme toute très africaines. Tout d'abord les chants religieux traditionnels que tout le monde connaît en Jamaïque, ils vont simplement être détournés au profit d'Haïlé Sélassié. On va y ajouter des tambours africains, alors deux styles particuliers qui sont le kumina et le bourou qui donnera naissance ensuite aux percussions Nayabingi et à la base de la rythmique reggae en fait. On a aussi l'influence des descendants d'esclaves d'Afrique de l'Est qui sont des chants funèbres à peine remaniés. Et dans les églises de tôle des ghettos retentissent les rythmes vaudous. Donc toutes ces influences-là vont être un petit peu brassées pour installer les bases du ska et plus tard du reggae. Voilà, donc il y a une grosse tradition des tambours bourrous donc, qui consiste à la base en un rituel de fin d'année africain. Où des groupes de percussionnistes vont de cours en distribuant critiques et colibés. Et cette tradition-là va devenir très prisée des Rastas. En fait, ils vont s'en donner à cœur joie, du coup, sur le dos du système colonial, un petit peu. Cette pratique-là, ça devient une sorte de défouloir, quoi. Et alors, un homme, comme toi aussi, à ce moment-là, va relier les communautés de Bourroumen, de Jamaïque et les Rastas en créant, vers la fin des années 50, le centre culturel, la Mystic Revelation of Rastafari, qui est dédié avant tout aux percussions gourou, lui-même étant un maître de cette discipline, de cet art, de cette discipline. Oui. Donc il va l'enseigner en masse à tous ceux qui viendront se présenter à la Mystic Revelation of Rastafari. Et en parallèle, il y a une école, l'Alpha School, qui est créée. Alors c'est une institution catholique à la base qui prend en charge les enfants des rues et afin de leur donner un métier, de les former un petit peu pour pas qu'ils se retrouvent
désœuvrés
dans la vie, voilà.
D'accord.
Et au sein de cette école, une fanfare est créée. Et alors de tous ces orphelins en pleine émergence des percussions Rastafari, de cette mouvance un petit peu, va sortir en fait de grands noms de la musique moderne, quoi. Il y a par exemple Leslie Thompson, qui deviendra le premier chef d'orchestre noir du London Symphonic Orchestra, et aussi le fameux Johnny Dizimour, qui sera le trompettiste et l'un des membres fondateurs des Scatalites en 1963. Donc il y en a beaucoup d'autres.
Ils sont très importants.
Sont parmi les plus connus, disons, quoi.
D'accord.
Et alors ensuite, il va se passer une rencontre entre Kuntosi et Margarita Mahfoud. Alors elle est d'origine syrienne, en Jamaïque, depuis toute petite. Elle travaille en tant que danseuse du ventre dans les cabarets et les théâtres de l'île. Elle est très réputée pour ça. Et l'association, en fait, avec Kuntosi va un peu propulser celui-ci. Elle va proposer à un moment donné, dans un de ses spectacles programmés dans un grand cabaret de Kingston, au patron du cabaret, elle va lui proposer de remplacer la section des percussionnistes par Kuntosi et ses musiciens.
Oh, génial, d'accord.
Donc le gars n'est pas du tout d'accord au début, il veut pas de barbu rasta dans son établissement, c'est un petit peu contre l'establishment et la bonne société coloniale de l'époque. Mais bon, elle va insister, elle menace d'annuler simplement le spectacle s'il n'est pas d'accord, quoi. Donc étant donné qu'elle attire quand même beaucoup de monde aussi et que les salles se remplissent beaucoup grâce à elle, ben ils finissent par trouver un arrangement, on va dire. Donc il veut bien inviter ces gens-là, mais il propose de les installer au fond de la scène et de pas beaucoup éclairer,
d'accord,
histoire qu'on voit surtout la danseuse et la section cuivre, en fait, qui accompagne aussi, mais pas trop les percussionnistes avec leur grosse barbe et leurs gros cheveux. Les gens sont pas encore tout à fait prêts, quoi. Et finalement, le spectacle est un triomphe, en fait. Donc, la salle demande à voir les musiciens. Et lorsqu'on éclaire la scène entière, ben, c'est l'étonnement. Alors, les avis sont partagés. Certains s'échappent et c'est une honte. Mais bon, il y en a quand même beaucoup
pour féliciter ces musiciens, ouais.
Il y en a quand même beaucoup, voilà, pour féliciter. Et à l'issue d'ailleurs de ce spectacle, Contossi va vraiment installer son groupe avec Holistic Revelation comme un groupe officiel, va faire des concerts, va avoir des accès qui vont s'ouvrir.
Et de là, voilà, qu'on est quelque part la musique reggae, en fait. Enfin, c'est les premiers balbutiements. Et après, ce sera Bob Marley qui va donner la voix au rastafarisme dans le domaine de la musique, mais c'est vrai que c'est né déjà avec cet homme-là, Kant aussi, qui a fait le lien entre les origines africaines ethniques et la musique moderne, en fait.
Voilà, c'est ça, ouais.
Voilà, et vous allez être obligé de rendre l'antenne. Donc, merci de votre participation.
Mais non, on reprend l'antenne. Voyons. Faut pas se désoler comme ça. Alors, j'ai cherché beaucoup. Alors d'abord, un énorme merci à Sébastien, sans qui l'émission n'aurait pas été possible. Cette émission, qui vous en êtes peut-être rendu compte, est une rediffusion de ce beau travail qu'on avait fait il y a à peu près 2 ans avec Baptiste et Sébastien. Alors, comme promis, j'ai cherché des informations sur les Niabingé. C'est pas évident du tout. Alors, je vous ai fait un petit compactage des infos que j'ai trouvées sur quelques pistes de Wikipédia, parce que mon universaliste, elle connaissait pas. Faut dire qu'elle a une quarantaine d'années, mon universaliste, hein, même si je m'en vante beaucoup. Et oui. Alors voilà le compactage des pistes Wikipédia sur les Niabingé. À l'origine, Niabingé était un culte et une société secrète centrafricaine à la fin du XIXe siècle, active surtout au Congo et au Kenya, et dédiée à une princesse qui lui a donné son nom et qui signifiait « celle qui détient entre ses mains ». Ça doit être la définition du pouvoir, ça, si je ne me trompe. Tout ce que l'on sait d'elle est qu'elle était rwandaise ou peut-être ougandaise et qu'elle serait morte vers 1850 en se rebellant contre l'esclavage et la colonisation. Le culte était par nature violent et secret, et tout étranger osant se revendiquer Niabingé était tué sans sommation, ceci étant farouchement opposé aux Occidentaux et menant des actions terroristes contre les colons. L'organisation était dirigée par des femmes prêtresses, comme disait Sébastien. Des femmes prêtresses appelées les Bagirwas. Elles enseignaient la mythologie des Rwandais, ces héros qui avaient payé de leur vie leur lutte contre l'oppression occidentale. Le culte disparaît vers le début des années 30, entre la prise du titre de Négus par Haïlé Sélassié et son couronnement définitif. En septembre 1935, juste avant l'invasion par les Italiens de l'Abyssinie, un article du Jamaica Times affirme que Haïlé Sélassié serait à la tête d'une armée secrète visant à éradiquer l'homme blanc d'Afrique. Ces guerriers, le vénérant comme le sauveur du peuple noir, sont identifiés comme étant les Niabingé, société secrète dont Haïlé Sélassié aurait été élu secrètement chef en 1929, date à laquelle les Niabingé disparaissent dans la nature, et dont le nom signifierait « mort à l'oppresseur blanc et à ses alliés noirs ». Le mouvement Rastafari est alors encore jeune, et l'article du Jamaica Times fait l'effet d'une bombe. les Rastas s'identifient immédiatement aux Niyabingi. Le but de l'article était d'ailleurs, certainement, de discréditer les Rastas, d'effrayer les Occidentaux quant à la puissance d'Haïlé Sélassié et de justifier l'invasion mussolinienne et la persécution des Rastafariens et autres africanistes. En mars 1958, a lieu le premier rassemblement dit Groundation, le premier grand rassemblement à Kingston. Il est violemment réprimé par le pouvoir de la couronne d'Angleterre. Le mouvement Niyabingi est l'un des piliers du mouvement Rastafari. Le culte est donc entièrement voué à Haïlé Sélassié, qui est l'incarnation de Dieu sur terre, Jah, hein, J-A-H. Ça nous rappelle le nom d'artiste de quelqu'un de sympathique, hein, Tiken Jah. Leur objectif premier est le rapatriement en Afrique de tous les Noirs de la diaspora. Ils sont très attachés à l'histoire du peuple africain et à sa compréhension. Il n'y a pas de fondateur ou de chef de l'ordre Niyabingi. Les anciens, dits elders, évidemment, sont cependant particulièrement respectés. Lors des Groundations, tous les frères et sœurs se réunissent et lisent la Bible, jouant la trinité des tambours Niyabingi, c'est-à-dire le bass Pops Mesher, qui se contente d'imiter le battement du cœur ou le tonnerre. Bon, ça, tout le monde le reconnaît. Hein. Le Funde qui accompagne est le Keite Repeater, le soliste, entouré des chants rasta et de la fumée de ganja, dite herbe sacrée. Et le ganja vous rappelle peut-être le centre culturel africain dont on avait reçu les organisateurs il y a quelques mois à Canal. On remarque l'apparition du turban et l'appel aux 21 psaumes par jour. De nos jours, ces rassemblements sont appelés Niyabingi ou parfois en Yarik. Yarik, ben, ça doit être une langue africaine, je suppose. Ça s'écrit I-Y-A-R-I-C. Alors, en Yarik, ces rassemblements sont appelés Yabingi. I-Y-A-H-B-I-N-G-H-I. Leur but est de communiquer un message à travers le monde visant à la libération de tous les humains esclaves de Babylone, c'est-à-dire, en gros, le monde capitaliste. Les tambours Niyabingi jouent nuit et jour lors des cérémonies qui peuvent durer de quelques heures à parfois plusieurs jours. Quand les joueurs se fatiguent, d'autres prennent leur place. Mordi, and I'm a lady, for the IT. Not the Anna Numa for the Gubba for the Matajo. Not the Gensi Go for the Anna for the Fajo. But when I can't tell you how much I get the Antu. IT, no more than many, man, I'm a lady, baby. Jammer, the Clubba can begin a new Yala Jamal. I mean, Puma for your guest, I'm a guy by Hong Kong. J'aurais voulu être en plein carnaval de Rio. Avec mon clan, que les autres puissent m'enfiler. Soleil, fou, fait fou, tout se passe à merveille. Nous gauche à droite, c'est trop, je fais salaire. On se balade comme des gens heureux. Rien ne peut m'arrêter, j'aurais bien voulu faire le dicta. CRCFA, l'homme du ciel. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. I wanna do my thing. Kick off, switcher, mon effort, faire aller, aller.
J'ai une casquette des costards, draguer des hôtesses, hôtel, fouler des putains d'hôtel. Le cave dans l'eau, péter dans les restos, le sous dans hôtel. Bill Gates, des double S, pas ton diète Seychelles.
Aider à faire une vraie émission sur les Niyabingi, eh ben faudrait nous envoyer ce que vous savez, ce que vous avez découvert, ce dont vous avez entendu parler sur la question. C'est une demande très sérieuse que je vous fais, parce que je vous avoue que j'étais très vexée quand j'ai voulu m'y mettre et que j'ai pas trouvé grand-chose. Alors si vous trouvez, eh ben vous envoyez ça à Canal Sud tout attaché 31@wanadoo.fr et vous précisez dans l'objet pour contre-histoire. Voilà. Parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Alors, je vais arrêter l'émission maintenant parce que, ben, comme je ne suis pas très, très ferrée sur les Niyabingi, eh ben, le combat va cesser faute de combattants. Alors j'envoie un grand bonjour à Sébastien et aux animateurs du Centre culturel africain qu'on espère bien revoir bientôt. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Vous pourrez retrouver ce premier Rasta tout à l'heure sur le site de canalsud.net. Rubrique contre-histoire, comme d'hab. Merci beaucoup à tous. À bientôt.
mulen gayal wan derbi de kore mulen gayal wan boy mastata luem luem jo taribe damam ko do badola munda fadibo. Oh,